Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. Mes invités du jour, Capucine et Simon Johannin, sont jeunes, très jeunes même. Ils viennent de sortir un roman écrit à quatre mains, Nino dans la nuit, le titre de cet ovni littéraire édité par Alia. C'est une plongée dans le monde de la jeunesse précaire, mais qui ne sombre jamais dans le mélo sociétal, comme si c'était une question de principe. Amour et misère, poésie et galère, Nino dans la nuit n'est pas seulement le roman générationnel qu'on attendait, c'est peut-être un des meilleurs livres sortis cet hiver, à l'ombre du Sérotonine de Michel Houellebecq.
Le réveil culturel. Lundi, livre.
Bonjour Capucine.
Bonjour.
Vous avez quel âge, Capucine et Simon Johannin? Parce que vous avez l'âge où on peut vous poser cette question.
J'ai 27 ans.
J'en ai 26.
Et vous avez 26 ans. Alors ça, c'est le premier livre écrit ensemble. Mais vous, Simon Johannin, vous avez déjà publié un livre en solo, toujours aux éditions Alia, L'été des charognes. C'est bien ça?
Oui, c'est ça.
Nino dans la nuit, c'est vraiment une virée un peu dans le monde de la jeunesse précaire. Mais dès qu'on dit précaire, on s'attend à ce qu'il y ait des drames, de la misère, quelques flashs des films des frères Dardenne. Mais c'est pas du tout ça. C'est d'abord une histoire de deux jeunes qui s'aiment, un roman d'amour, et qui s'arrangent pour survivre.
Oui, c'est ça. Moi, j'avais vraiment envie, enfin, pour moi, l'art, c'est aussi quelque chose qui fait du bien. Et j'avais vraiment envie qu'on fasse un livre qui fasse du bien aux gens. Donc, même si on parle de sujets, qui peuvent être durs, j'avais envie que, ça soit quand même quelque chose qui fasse rire les gens. Et on s'est amusé à dénoncer beaucoup de choses dans Nino. Mais on a toujours voulu le faire passer sous le ton de l'humour. On n'a jamais voulu que, ça soit, comme vous disiez, misérabiliste. Et après, on aime aussi,
c'est pour rebondir sur ce qu'a dit Capucine. C'est vrai que c'était important pour nous de, à chaque fois qu'on aborde un sujet, de trouver un biais qui soit pas celui qui est attendu d'être un petit peu dans l'esprit de nos personnages, un petit peu mutin, un petit peu rebelle dans notre manière d'aborder les choses. Et vraiment pas de faire du violon, quoi, parce que la vie est suffisamment chiante et assez dure parfois pour qu'en plus, quand on ouvre un livre ou qu'on regarde un film, on en remette un peu de plomb en plus dans l'aile, quoi. Donc nous, on essaie plutôt au contraire de faire quelque chose qui élève un petit peu et qui aère l'esprit tout en étant politique, quoi.
C'est une histoire d'amour aussi. Et cette histoire d'amour, est-ce que c'est aussi le reflet de votre propre histoire? Parce que vous n'êtes pas amis, vous êtes amants, vous êtes même mariés, non?
Oui.
Bon, d'accord.
Oui, c'est vrai que pour Nino, on s'est beaucoup inspiré, que ce soit de nos amis ou de nos expériences personnelles. Il n'y a pas grand-chose, à part le début, la Légion, il n'y a pas grand-chose qui a été inventé. Donc c'est vrai que...
C'était vraiment nous ce qu'on aime faire, c'est partir de nos expériences, essayer de les transcender pour en faire quelque chose qui puisse être offert aux autres, sans parler de notre petite histoire à nous. C'est pas du tout notre biographie, mais c'est vrai que c'est très nourri de nos expériences et de celles de nos proches. Et fatalement, la vision de l'amour qui est dans le livre, c'est aussi la nôtre. C'est aussi notre manière, et de l'amitié aussi, d'une manière générale. C'est comme ça.
C'est aussi un roman sur l'amitié, ouais. Effectivement, on va en parler. Dans Nino dans la nuit, ce roman donc édité par Alia, je le rappelle, les jeunes sont obligés, les protagonistes sont obligés de faire les poubelles des grands centres commerciaux pour manger, pour survivre. Ils habitent en banlieue dans des maisons, dans des appartements vétustes, et encore même pas déclarés. Mais ce qui rend original ce roman, c'est que cette vie, elle a été choisie par ces jeunes. Et s'il y en avait un doute, eh ben, vous nous l'ôtez avant même de commencer votre roman. Vous citez Albert Cossery.
Ouais. Ouais, et surtout cette phrase, et on les appelait mendiants ou bien voleurs, souvent suivant leur assistance à vivre. On trouvait que ça illustrait bien, en fait, les personnages de Nino et de leurs potes, parce qu'effectivement, eux, ils sont plutôt du genre voleurs, ils insistent pour être vivants, mais ils ont vraiment l'intention de faire les choses à leur manière. C'est ça qui fait qu'ils sont un petit peu à l'armage. C'est-à-dire qu'avec Capucine, on a vraiment essayé de développer une histoire qui fait comprendre que, en fait, trouver sa place, c'est compliqué, mais surtout trouver une place vertueuse, c'est carrément impossible aujourd'hui, quoi. Et eux refusent, en fait.
Et encore, c'est quoi une place vertueuse?
Ça serait une place où on, par l'activité qu'on a, on fait pas trop de dégâts autour de nous. Et c'est vrai que eux, dans tout ce qu'on leur propose, ils se disent, mais en fait, je veux pas produire des choses qui servent à rien. Je veux pas participer, être le rouage d'une machine qui détruit ceux qui sont en dessous de moi parce que j'ai été à cette place et que j'ai pas envie d'y être. C'est un petit peu tout ça qui se mélange. Et
puis, alors ils le font, ils le vivent, mais ils ne font pas des discours. C'est ça qui les rend vraiment très attachants.
Oui, c'est ça. On n'avait pas envie. Enfin, c'est des personnages. Enfin, les gens comme ça dans la vraie vie, ils sont vite considérés comme des ratés, comme des losers. Et le fait que, enfin, eux, ils ont aussi conscience que dans un sens, comme vous disiez, ils font un choix. Et en même temps, c'est un non-choix aussi parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres solutions possibles. C'est ce qu'on montrait aussi, c'est que si on veut pas rentrer dans un système où, comme ils peuvent voir autour d'eux, que ce soit leurs parents, le père de Nino qui est pêcheur, le métier où il y a le plus de morts en France, le métier le plus difficile, il a trimé toute sa vie et à la fin il peut même pas aider son fils unique à vivre dignement. Enfin, c'est vraiment un système dans lequel ils voient que même ceux qui rentrent dedans, ils sont malheureux, leur vie est difficile, leur vie est compliquée. Et eux, ils essayent de trouver une autre voie et c'est vrai que c'est compliqué.
Pourquoi cette citation d'Albert Cossery ? Est-ce que vous avez lu Albert Cossery ?
Oui, alors c'est une citation que moi j'ai trouvée. En fait, on m'avait conseillé Mendiant et orgueilleux d'abord et puis Les hommes oubliés de Dieu. En fait, on m'a conseillé Cossery et je l'ai lu. Et puis en fait, en regardant une archive où il parle de ce livre... le journaliste lui parle de Dieu, donc c'est quoi le rôle de Dieu, il dit mais Dieu c'est la société, les hommes oubliés de Dieu c'est les hommes oubliés de la société, et on trouvait que ça faisait sens avec nous déjà à la fois de faire ce renvoi entre Dieu et la société, parce que aujourd'hui les règles sociétales sont tellement importantes qu'elles sont presque elles sont presque religieuses. Il faut un bon travail, il faut une famille, il y a plein de choses comme ça, plein de petites cartes à avoir pour en tout cas, c'est une pression qu'on nous met très fort dès l'école. On travaillait avec des lycéens la semaine dernière en Belgique. On sentait vraiment ça très fort chez eux. C'était quoi leur inquiétude ? C'était d'avoir un travail et de pouvoir gagner de l'argent pour pouvoir vivre. Enfin, voilà, ils sentaient. Et déjà, c'est un peu déprimant de voir ça dans la tête de gamins qui ont 14-15 ans. Et donc pour nous, ça faisait sens de le mettre en avant. Et aussi parce que Cossery, il est drôle, quoi. Tout est à la dérision. Et c'est comment continuellement se foutre de la gueule de l'autorité. Avec un verbe qui est quand même assez classe, quoi.
Ouais, et puis surtout vous l'avez conjugué au présent, Capucine et Simon Johannin, parce que vos personnages, les protagonistes de Nino dans la nuit, ils ont beau être pauvres, à la ramasse, ils sont heureux, ils font la fête nuit et jour.
Oui, bah c'est aussi cette joie de vivre, cet humour qu'ont les personnages, c'est aussi quelque chose qui leur permet de continuer à tenir, de continuer à avancer. Leurs amitiés, leur amour, c'est aussi ce qui les maintient. On voit qu'un personnage comme Nino, qui peut avoir tendance à noyer un peu ses soucis dans la fête et dans le monde de la nuit, s'il avait pas son amour pour l'aller et ses amis qui lui donnent envie de s'en sortir, parce qu'il a ça qui est tellement précieux, on peut penser que il sombrerait et qu'il n'essaierait pas de garder la tête hors de l'eau.
Il y a Nino, il y a Lalé, effectivement, sa copine, et puis il y a les amis, c'est-à-dire Malik, Charlie, Violette. Est-ce que ce portrait de groupe, c'est vraiment quelque chose qui part, vous le disiez en début d'émission, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui part de votre entourage ?
Ah oui, vraiment.
C'est vraiment la réalité augmentée par la fiction.
Voilà, en fait, la plupart des personnages, c'est soit des mix de Malik, c'est celui qui a un mix de pas mal d'amis à nous. Après, il y en a qui sont vraiment tirés d'un ami en particulier. Mais c'est vrai quoi, on a beaucoup été influencés.
Ouais, et surtout, en fait, plus que des traits de caractère, ce qui est important dans la définition des personnages, c'est les expériences aussi qu'on décrit de travail, d'amour, de tous les domaines qui sont abordés dans le livre, c'est aussi des choses qu'on a tirées de nous et autour de nous parce qu'on les trouvait suffisamment intéressantes pour les porter publiquement dans un livre qui dépasserait un petit peu tout ça.
C'est aussi une jeunesse, c'est vraiment une précarité qui est invisible. Je pense que ces jeunes-là, on le voit autour de nous, nos amis qui vivent ces expériences-là, quand on les voit, on se dit pas « Ah tiens, il a mangé, il a trouvé sa nourriture dans les poubelles, ah tiens, lui, il vit dans tel endroit. » Et c'était aussi une façon de montrer que oui, ça existe, ces jeunes sont là et que ils ont tellement de choses à donner, ils ont des choses à apporter à notre société. Et en fait, c'est pas possible. Et l'égalité des chances, elle n'existe pas. Et on y perd tous beaucoup.
Et pourtant, on a l'impression que vous ne venez pas de ce monde à vous entendre parler ainsi.
Mais justement, c'est ça. C'est vraiment précarité invisible. Et jeunesse, enfin, on dirait pas. Moi, j'ai pas fait d'études. J'ai que le bac. J'ai essayé un petit peu. J'ai passé 2 mois en fac de cinéma, tout ça. Les études, ça a été très compliqué à cause de la précarité aussi. Parce qu'après, j'ai tenté une école d'art en Belgique, qui est une école d'art au final où les gens étaient très très bourgeois, très riches. Et le fait fait que voilà, moi j'ai mis 3 mois à réussir à trouver un logement parce que voilà, j'avais pas les bons papiers, les bons garants. Il y avait aucune empathie parce que ils comprenaient même pas ça en fait. Enfin non, les logements il y en a, c'est bon. Et ça a été très compliqué parce que voilà, même si on est capable, je pense, on peut faire des choses, mais c'est vrai qu'on n'a pas toujours l'opportunité. Et au bout d'un moment, on se ramasse. Moi là, j'ai 27 ans, ça fait 10 ans que j'ai eu le bac, 10 ans que tout ce que j'ai essayé de faire, j'ai échoué. Disons que les petits boulots, que tout s'est mal passé.
Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à Nino dans la nuit.
Voilà, et c'est pour ça que je trouve ça dégueulasse, parce que voilà, aujourd'hui, on m'accueille, on me fait parler comme si c'était intéressant ce que je disais, comme si ma voix, elle comptait aussi, alors que ça fait 10 ans qu'on me dit que je vaux rien, et que Simon, ça a vraiment été mon cheval de Troie. Je pense que s'il n'y avait pas eu Simon, un homme qui a réussi à avoir une crédibilité, parce que lui, l'école, ça s'est mieux passé, les profs, tout
moi,
ça.
Moi, je suis un chanceux dans la
vie. Et moi, je pense que voilà, alors que pourtant, je reste quand même une femme blanche qui est voilà plutôt jolie. Enfin, je sais que j'ai aussi des avantages et je me dis, dans nos amis, voilà, les gens qui sont comme Malik, qui sont des personnes soit trans, travesties, noires. Enfin, c'est des personnes. Enfin, c'est tellement plus dur pour eux et même pour moi, qui ça devrait être plus facile. Bah, le fait, ne serait-ce que d'être une femme et d'être une femme précaire, ça a rendu mon chemin très très compliqué. Et je sais pas si sans Simon j'aurais réussi à.
C'est vrai qu'on a dû développer des stratégies. Moi d'emblée ça a été complètement un parcours différent parce que j'ai bénéficié d'un préjugé positif qui a fait qu'on m'a accueilli plutôt bien partout et j'ai pu, même si comme Capucine c'était pas toujours évident, mais en tout cas faire des études. Voilà, moi j'ai un niveau licence dans le supérieur, j'ai pu faire des études supérieures et c'est vrai qu'on a dû très tôt développer des stratégies pour arriver à faire les choses ensemble parce qu'on a très vite vu l'écart se creuser, ne serait-ce qu'entre elle et moi. On a beau être hyper soudés, même aujourd'hui c'est pas évident, ne serait-ce que dans la presse, dans la promotion du livre qu'on fait maintenant, d'imposer le fait qu'on travaille à deux, que c'est pas moi qui fais le travail,
et pas des articles qui parlent que de Simon, qui oublient souvent de mentionner aussi mon nom. Enfin, alors que c'est un travail qu'on a fait tous les deux et on retrouve des articles dans des grands magazines, dans Elle, dans des magazines littéraires qui parlent que de Simon où il y a même pas mon nom quelque part, quoi. Et ouais.
Non, mais c'est parce que Simon avait peut-être sorti un roman avant.
Bien sûr.
Ouais, bien sûr.
Mais celui-là, il est fait à tous les deux, donc il faut nous nommer tous les deux. Sinon,
nous nommer tous les deux, c'est la moindre des choses. Je comprends tout à fait qu'on présente Simon par rapport à L'été des charognes. Et encore, L'été des charognes, c'est aussi un livre sur lequel j'avais travaillé. Ouais. J'étais pas extérieure à ça, mais voilà, je pense que c'est aussi normal. Les femmes, on a aussi besoin de représentation. Les petites filles qui ont envie d'exister dans le monde de l'art, elles ont aussi besoin d'avoir des modèles sur qui elles peuvent se projeter.
Et ça, c'est arrivé après coup, parce que ce besoin de reconnaissance, ils ne l'ont pas, vos personnages, dans Nino dans la nuit.
Parce qu'ils sont à des âges où nous c'était pareil aussi au final.
Ils ont entre 19 et 20 ans, il faut le rappeler. Ouais.
Voilà, c'est ça. Et à ces âges-là, ça pose pas forcément problème. Et c'est vrai que au bout de 10 ans, être méprisé alors qu'on se dit qu'on a peut-être quand même on mérite pas ce traitement-là non plus, que c'est pas forcément juste. Ça, et voilà, la vie précaire, elle est aussi très difficile à vivre. On se dit que bon, les choses, elles sont pas forcément à leur place, que la méritocratie, c'est une grosse fumisterie.
Et c'est le constat que font les personnages aussi, en grandissant et en rencontrant des gens. On mesure bien la différence, comment en tout cas la société va miser à fond sur certaines personnes de certains milieux, en investissant massivement de l'argent concrètement dans leur école, leur éducation, etc. Enfin, si on fait la différence entre l'argent qui est investi entre un collégien du 93 et un collégien du 7e arrondissement, à mon avis, c'est pas le même budget par élève, quoi. Et donc, du coup, de constater comme ça en grandissant que l'inégalité est réelle, mais qu'en plus personne n'est heureux, parce que c'est pas parce qu'on est on est plus privilégié qu'on est, on trouve plus de sens dans l'époque et dans ce qui est proposé. C'est-à-dire que voilà, il y a quelque chose, la perte de sens, elle est quand même partagée par, elle est transversale au niveau des classes sociales. Nous, c'est aussi ce qu'on essaye de montrer, c'est que ceux qui s'en sortent bien dans le livre, qui ont des jobs, qui gagnent 3000 euros par mois à 25 ans, ils remplissent leur frigo et ils payent leur loyer, mais ils sont seuls, quoi. Enfin, il y a quelque chose qui va pas chez eux non plus. Et du coup, voilà, on n'apporte pas de réponse, mais en tout cas, on voulait vraiment montrer ce qui est, je pense, symptomatique de l'époque et qu'on sent beaucoup autour de nous chez les jeunes, c'est que voilà, on sait plus du tout où on va, en fait. Et c'est ça qui est assez drôle.
J'ai dans les yeux, j'ai dans le cœur, comment te le dire ce je ne sais quoi. Je ne vais pas en rester là, pas en rester là.
J'ai dans les yeux, j'ai dans le cœur. Comment te le dire, ce je ne sais quoi. Je ne vais pas en rester là. Pas en rester là.
Je ne sais que peu de choses sur moi et les autres, mais je sais que ce qui nous sépare les uns les autres est si peu de choses.
Je ne sais quoi, je ne vais pas en rester là. Pas en rester là.
Ça commence d'une drôle de manière, le roman Nino dans la nuit de Capucine et Simon Johannin, jeune français, Nino Paradis, c'est son nom, de 19 ans, se présente à la Légion étrangère, ce qui est vraiment très étrange, comme pourquoi un jeune français veut-il s'engager dans la Légion étrangère? C'est une expérience qui ne va pas aboutir pour cause de drogue, ingurgité. Est-ce que vous avez fait ce test d'aller à la Légion étrangère?
Non, pas du tout. La Légion, c'est vraiment parti, alors c'est un croisement de plusieurs choses, ça part à la fois de chants militaires qui viennent de mon enfance, qui faisaient des quoi plein de choses, à la fois de cette espèce de truc mystique un peu avec la Légion, où, voilà, c'est une porte par laquelle on passe, on change d'identité, etc., et on trouvait que ça vient de bonne entrée. Et surtout, ça permet vraiment de triper au niveau de l'écriture, parce que ça mélange des gens de partout qui parlent mal le français dans un univers martial hyper particulier, et du coup c'était très drôle à écrire, mais surtout ça nous permettait avec Capucine de montrer que malgré le fait qu'on parle d'une jeunesse qui est précaire, c'est une jeunesse qui est moins précaire qu'une autre, qui est vraiment, elle, dans la merde, quoi.
Même si, après, moi, je pense qu'il faut pas hiérarchiser les galères. Enfin, voilà, c'est aussi ce qui culpabilise les personnages, c'est qu'on se dit, oui, il y a toujours pire ailleurs, mais c'est pas parce qu'il y a pire ailleurs qu'il faut pas s'occuper des gens qui vivent mal en France, parce que y en a qui ont rien à manger au Nigeria.
Vous êtes issu de quel milieu social, par exemple?
Classe moyenne.
Ouais, Capucine, classe moyenne. Moi, je viens d'un milieu paysan, donc à la fois plus précaire. Mes parents étaient au Rémy quand j'étais petit. Enfin voilà, on partait pas en vacances spécialement, sauf dans la famille. Mais en même temps, j'ai jamais manqué de rien non plus. Je suis pas du tout. Pas un milieu prolétaire. Et en même temps, le monde paysan, tel que je l'ai vécu moi, il a cette spécifique. Il est très solidaire. Donc, comme c'était un peu en vase clos. Très coupé du monde extérieur,
Et comment vous avez coupé les liens, j'allais dire, avec le milieu social d'origine?
C'est des parcours de vie. Déjà, la distance géographique, moi, je viens du sud de la France, je vais faire des écoles d'art en Belgique,
Ça fait quoi comme étude?
J'ai fait un parcours beaux-arts, j'ai fait une école qui s'appelle La Cambre, dans un atelier qui s'appelle Espace Urbain, pluridisciplinaire, dans lequel je savais pas trop ce que je faisais, où je me suis mis à écrire. C'est là où ça a un peu commencé.
Et vous, Capucine?
Et moi, mes choix de vie, j'ai toujours voulu travailler dans l'art, donc c'est des choses qui ont pas forcément été approuvées. Le fait que je rentre pas dans le rang, j'ai pas la même façon de penser.
Vous voulez dire dans votre milieu familial?
Voilà, c'est ça. Donc c'est aussi ça qui a fait que j'étais très précaire, ça a été compliqué pour moi. C'est que moi, contrairement à Simon, j'ai été très coupée de ma famille, donc il a fallu que très jeune, je me débrouille seule, et c'est ça qui a rendu les choses compliquées.
Comment vous êtes rencontrés?
On s'est rencontrés en fac de cinéma à Montpellier, en soirée, ouais. Par des amis, on avait des amis communs.
Des amis en commun, ouais. On s'est rencontrés.
Moi, je suis pas restée longtemps, j'ai resté 2 mois, mais suffisamment pour rencontrer.
On s'est rencontrés, on est partis. C'est un peu comme ça que ça s'est passé. Tout ça, c'est servi à ça.
Et vous êtes partis ensemble?
Non, parce qu'au début, Simon était un peu frileux. Moi, je suis allée avec une fille que j'avais rencontrée là-bas. Ça nous plaisait pas vraiment, l'école, comment ça se passait. Parce que dès le premier jour, les gens ont dit, bon, voilà, aujourd'hui, vous êtes 500. S'il y en a un qui réussit, ça sera miraculeux. C'est déjà pas un truc qui, voilà. Ouais. Et du coup, on s'est dit, oh, c'est nul, l'avion, on part quelque part. On est allé en Australie, on est passé 8 mois à faire des petits boulots. Je travaillais dans le bush, dans le désert, tout ça. Voilà.
Et vous, Simon Joannin, pour vivre? C'était l'art, toujours l'art?
Non, ou bien... ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai un peu suivi les études. Alors moi, j'étais boursier à l'époque. Pour parler chiffres, j'avais une bourse de 460 € avec laquelle je vivais. Ça fait vraiment pas grand chose, même si à 18 ans, on n'a pas besoin de grand chose. Mais c'est quelque chose qui m'a vite gavé. Et du coup, j'ai trouvé un travail à Montpellier. Je me suis mis à travailler très jeune, à 17 ans. Du coup, j'allais sur mes 18 ans, mais quelques mois avant mes 18 ans, j'ai été vendeur de jouets dans une boutique. Voilà, où une boutique qui s'appelle Pomme de Renette, je les salue si m'écoute, un endroit un peu farfelu. Et voilà, j'ai fait aussi des missions d'intérim, j'ai fait aussi de l'animation. Enfin, moi, j'ai été moins pressurisé que l'a été Capucine, moins dans l'urgence. Par contre, j'ai fait des journées de travail à 30 heures, 50 euros, 30 euros la journée. Et j'ai eu autour de moi, en fait, j'ai été en contact, j'ai travaillé avec des gens qui n'avaient que ça. Sur quoi compter, et c'est vrai que c'est assez...
Enfin, y a que ça et la fête. Il y a beaucoup de fêtes dans Nino dans la nuit. Hein, elles sont pas toujours heureuses, ces fêtes, d'ailleurs.
Bah, mais... c'est un moyen de décompresser, surtout.
Ouais,
quoi.
C'est vraiment leur bouffée d'oxygène. Après, c'est vrai que pour ces personnages-là, c'est
la... À propos de bouffée, c'est pas d'oxygène qu'il s'agit dans ce roman.
Ça. Mais c'est vrai que pour ces personnages-là, c'est la fête, mais après, pour beaucoup d'autres gens, ça peut être les antidépresseurs, l'alcool, les achats compulsifs. Mmh. Enfin, on a tous, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'autres gens qui arrivent à juste se sentir bien, à être heureux, à être épanoui, à être... On vit dans une société qui nous rend malade, ouais. Que ça soit au niveau du corps ou de l'âme, de l'esprit. Et je pense que il faut qu'on prenne tous une pause et qu'on se demande. C'est comme les personnages, ils ont pas beaucoup de réponses, mais à chaque fois ils se demandent pourquoi, ils comprennent pas grand chose. Et je pense qu'il faut qu'on s'arrête un peu et qu'on se demande pourquoi on fait ça, pourquoi on vit comme ça.
Écrire à deux, ça ressemble à quoi? Qui commence, qui finit?
Est-ce que je commence et Capucine finit, s'il faudrait dire les choses comme ça. Après, c'est vrai que nous, c'est une question, on me la pose énormément. Ouais. On trouve ça un petit peu curieux que ce soit aussi curieux l'écriture à quatre mains, parce que si on faisait du cinéma ou de la musique, ça tombe tout de suite sous le sens.
Je poserai les mêmes questions, mais pour le cinéma, la musique. Pour la bande dessinée, pour Rupert et Mulot, ça fait 10 ans, puisqu'ils viendront cette semaine, ça fait 10 ans que je leur pose cette question.
C'est démocratique, mais en tout cas.
Donc c'est Simon qui écrit. Et moi, c'est vraiment au niveau de la structure de l'histoire. Moi, je construis vraiment l'histoire, je construis les personnages. J'ai apporté vraiment aussi un côté social, politique au livre qui n'était pas présent au début dans l'idée que Simon avait du roman. Donc ça, c'est vraiment ma partie. Et après, voilà, Simon, il va écrire et moi, je vais prendre des notes et je vais lui dire, OK, on retravaille ça, on change ça. On a beaucoup travaillé le ton de Nino qui, au début, était beaucoup plus en colère. Moi, j'ai trouvé que ça le rendait un peu antipathique et que ça pouvait... parce que voilà, c'est quand même des choix de vie qui sont rejetés par la plupart des gens en France où la valeur travail est très importante et où ces gens-là, on peut dire...
On traverse des moments très durs avec ces jeunes, hein, c'est-à-dire Nino, Lalé, mais aussi leurs amis et pourtant, ça ne sombre vraiment jamais dans le bad trip, ne serait-ce que parce qu'il y a une belle histoire d'amour.
On est des grands romantiques, hein, on adore les films avec Julia Roberts, avec Hugh Grant, tout ça. On est à fond.
C'est ce qui fait du bien les soirs d'hiver qui sont un peu
prolongs.
C'était important pour nous de mettre ça en avant parce que c'est ce qui nous semble plus important que d'amasser de l'argent ou d'avoir des belles voitures. C'est vraiment, en tout cas, nous. Sans juger ce que font les autres de leur vie, mais nous c'est ce qui nous plaît dans la vie, c'est notre manière de, c'est ce qu'on avait vraiment envie de porter et de mettre en avant, le fait que en construisant du collectif, on peut aussi se rendre heureux tout simplement et passer des bons moments, quoi.
Ouais, je trouve qu'on vit dans un monde où on met la pression aux enfants dès tout petit, dès la primaire, pour avoir des bonnes notes. Moi, je gardais des enfants qui rentraient en pleurant parce qu'ils n'avaient pas eu d'assez bonnes notes. Enfin, le but de la vie, c'est quoi? C'est d'avoir un bon travail pour gagner plein d'argent. C'est même pas avoir un travail qui va te plaire. C'est ça, la plupart du temps, c'est juste avoir un bon travail, gagner de l'argent. Moi, je trouve que si les gens, ils ont aussi peur que leurs enfants galèrent, faut peut-être pas faire d'enfants, en fait. Si vous pensez que le monde, il est tellement dur...
Vous allez en faire des enfants, Capucine et Simon? bonjour
moi,
Anna.
Moi, je trouve qu'on ne vit pas dans un monde où c'est responsable de faire des enfants. Après, je comprends le besoin de paternité, de maternité. Et je trouve qu'il y a des enfants à adopter et qui ont besoin. En France, les gens qui finissent dans la rue, c'est presque à 30% des gens qui ont grandi en foyer. Donc voilà, il y a des enfants qui ont besoin de cet amour. Il y a des enfants qui ont besoin de nous. Et on peut être là pour eux. Mais je trouve que c'est pas responsable de faire des enfants. Et surtout si on
apparemment, Simon est tout à fait d'accord. Ouais. Allez, pour terminer, qu'est-ce qu'on peut trouver dans votre bibliothèque? Vous avez une bibliothèque, d'ailleurs?
Ouais, on a quelques livres chez nous. Ouais. Ouais. On peut trouver Preacher, le comics de Dylan et Ennis. Ça, c'est le livre de chevet de Capucine qu'elle m'a fait lire.
La grosse inspiration au niveau de l'humour. Et,
et lui, qu'est-ce qu'il vous a fait découvrir, Capucine? Qu'est-ce que vous a fait découvrir, Simon?
Il est très difficile. Il me fait pas découvrir grand-chose parce que quasiment à chaque fois qu'il finit un livre, il me dit que c'est nul. Donc, non, moi, je suis très, très BD, roman graphique. Je lis très peu de livres. Et franchement, là, c'est le dernier livre que j'ai lu. Je sais même pas ce que c'est. C'est Le procès du cochon d'Oscar Kupfan. Mais je lis très peu de romans. Ouais.
Vous êtes plus littérature, cinéma ou musique?
Cinéma, c'est ma grosse passion, c'est le cinéma.
Ouais. Je suis un peu à cheval sur les trois, mais Capucine est vraiment une grande cinéphile.
Je regarde énormément.
Donc, je crois qu'il n'y a pas un nom d'acteur américain qu'elle ne connaisse pas.
Je suis les pages jaunes du cinéma. Simon, il se moque.
Je suis ravi de vous accueillir ce matin, Capucine et Simon Johanna. Merci beaucoup. Merci. Nino dans la nuit. C'est édité chez Alia. Vous pouvez réécouter cette interview en passant par franceculture.fr ou, une bonne fois pour toutes, vous abonner au podcast du Réveil Culturel. Émission préparée avec Corinne Amard, réalisée par Vincent Abouchard, avec, à la prise de son ce matin, Stéphane Touvenin.